Samedi 29 août, toute la matinée a eu lieu le forum des associations à Saint-Jean-en-Royans. Ce forum, organisé par la communauté de communes Royan-Vercors, a réuni une quarantaine d'associations de notre territoire. Radio Royan-Vercors était présent avec son studio mobile et a eu l'occasion de donner la parole à différentes associations pour leurs actualités de rentrée.
Eh bien, nous retrouvons maintenant Romain Ribeiro, qui est guide naturaliste pour Enquête de Nature, donc sa micro-entreprise. Bonjour Romain.
Bonjour.
Romain, donc toi tu organises des sorties sur le territoire principalement du Royan, c'est ça, des sorties en nature?
Voilà, des sorties animations sur le territoire pour parler un peu du vivant et de la nature qui entoure tout ça.
Et alors est-ce que cette année, avec ces températures vraiment particulières qu'on a connues et ces épisodes de canicule, ton activité a été impactée?
Alors oui, cette année on en parle beaucoup. Hein. En fait, ce qui a fait beaucoup de mal, c'est qu'on a subi de la sécheresse de manière très précoce cette année à partir de mi-mai. Voilà, on n'avait pas eu ça d'habitude, alors que c'est une période où généralement on bénéficie d'un maximum de pluie et de fraîcheur pour bien préparer la saison estivale justement. Et là, ça a été tout le contraire. Donc, au niveau de mon activité, au contraire, du coup, les gens naturellement étaient plus demandeurs et curieux d'avoir des petites promenades au frais et, si possible, découvrir et observer un peu les animaux sauvages et leurs indices. Après, d'un point de vue naturaliste, pour avoir étudié le terrain durant cette saison, on observait beaucoup de changements. Pas forcément auprès des animaux les plus connus, comme la grande faune, tout ce qui est rapaces, les cerfs, les loups, etc. C'était plutôt au niveau de la microfaune qui a été impactée, donc tout ce qui est amphibiens, insectes, les petits oiseaux, qui ont un métabolisme rapide et du coup qui ont besoin d'avoir un maximum de conditions favorables en fait, pour leur survie, le développement des jeunes, en ont pas forcément bénéficié parce qu'il y a eu un énorme manque de ressources alimentaires et surtout au niveau de l'eau. Parce que le Vercors, on oublie trop souvent que oui, le massif est magnifique, mais c'est un massif karstique. Donc comme il est fait de calcaire, le sol est extrêmement fissuré et l'eau peine à rester en surface. Donc dès qu'il commence à sécher très vite, on en subit les frais et cette année, ça a été dramatique. Ouais.
Oui, on manque d'eau en fait très, très rapidement du coup à cause de cette particularité.
Très rapidement karstique. Et le sol sèche à un tel point que même avec de lourdes précipitations sur plusieurs heures, voire plusieurs nuits, c'est pas suffisant encore pour que le sol soit complètement hermétique à retenir l'eau en fait. C'est ce qu'on a eu là en fin août. On a recommencé à avoir quelques précipitations. Donc ça nous a permis de faire des relevés de points d'eau en forêt, hein, les points d'eau naturels qu'on appelle des souilles ou des gouillas. Ils sont tous secs encore. Ils sont tous secs. J'ai jamais vu la forêt dans cet état. Autant on parle de la faune, des animaux sauvages, quand on parle du milieu et de la flore qui la compose. Je pense que tout le monde a vu un petit peu dans le Royan la couleur de la forêt depuis mi-juillet quand même, où les feuillus sont en tel stress hydrique qu'ils sont obligés de libérer leurs feuilles pour pouvoir survivre.
Donc mais des feuilles au sol, en fait, depuis très longtemps, comme si on était déjà presque en automne.
Comme si on était projeté en début novembre. Donc si ces étés s'enchaînent à répétition, ça risque de vraiment modifier la forêt très rapidement, et rapidement au point qu'elle n'aura pas forcément la capacité de se régénérer de manière saine. Donc voilà, ça c'est notre principale préoccupation. Du coup, c'est plutôt le milieu et ensuite les espèces qu'ils composent. Et puis bien sûr, les feux, hein, les feux qui sont plus que jamais possibles maintenant. Voilà, il faut être vigilant et se dire que tout est possible n'importe où, malheureusement.
Est-ce que tu fais de la prévention là-dessus, sur la question des feux, auprès du public qui t'accompagne?
Alors, suite à ces problématiques qu'on subit depuis 4 mois, j'ai énormément orienté et adapté mon discours et mon format lors des encadrements de groupe, donc notamment pour faire beaucoup de prévention, que les gens prennent conscience que oui, c'est des montagnes naturelles, c'est des vastes espaces, etc. Mais ça reste fragile, ils sont partagés par un grand nombre de personnes et que chaque personne à son niveau peut avoir un impact aussi positif que négatif. Donc à ce moment-là, autant donner des clés, des éléments pour pouvoir apprécier ces milieux et limiter son impact au vu des conditions des plus fragiles.
Et quand tu parlais donc de l'impact notamment donc sur la faune, comment est-ce que tu vois ça en fait? C'est tout simplement des espèces qui sont moins présentes autour de nous?
Alors concrètement, très peu de déplacements. On voit que beaucoup d'animaux ont adopté une stratégie de survie où ils limitent leurs dépenses énergétiques en se déplaçant peu pour pouvoir profiter de leurs réserves. Beaucoup de mortalité chez les jeunes. Ça a été observé chez les oiseaux, notamment les petits passereaux, hein, tout ce qui est mésanges, roitelets, pinsons des arbres, etc. Pour les rapaces, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'il y a tellement de falaises qu'ils arrivent à trouver des aires assez exposées à l'ombre dans des bonnes conditions. Mais voilà, et puis encore une fois, un sol très sec avec des points d'eau qui ont séché très très vite dans la saison. Donc avec des batraciens qui ne sont pas arrivés au bout de leur cycle de reproduction en fait. Hein.
Oui, c'est ça, les animaux ont manqué d'eau en fait, très clairement.
Ah oui, complètement. Hein. Après, encore une fois, voilà, la grande faune pour l'instant s'est adaptée. On n'a pas observé plus de mortalité ou plus de jeunes absents chez les cervidés, par exemple. Il y a autant de faim que d'habitude. Un grand cerf-mâle de 200 kilos, voilà, il a des réserves de graisse et puis de calories en général, donc il peut tenir des semaines comme ça dans des conditions vraiment compliquées. Hein. C'est un animal qu'on peut trouver dans le sud de l'Espagne, dans des plaines complètement arides, donc voilà, ici, il s'adaptera. Il n'aura pas le choix de toute façon. Par contre, il faut s'attendre à ce qu'il soit moins gros. Parce que moins de ressources alimentaires, des conditions de vie plus difficiles. Donc en général, ça entraîne une forme d'atrophie physique, en fait. Petit à petit, on devient moins gros, quoi.
Oui, c'est des choses qu'on pourra constater sans doute dans les années qui viennent. C'est vrai que pour l'instant, on en est un petit peu au début de ces changements. C'est progressif, en tout cas pour l'instant. Mais ça va sans doute s'accélérer. Donc c'est vrai que c'est des changements qu'on risque de constater
complètement.
Nous tous sur le territoire. Et tu disais par contre, donc, au niveau de la fréquentation, pour l'instant, c'est plutôt bénéfique quelque part pour toi, dans le sens où les gens cherchent en fait, à se retrouver eh bien, dans la forêt, parce que ça reste un des derniers lieux un peu frais quand il fait vraiment très chaud partout ailleurs.
Complètement. Bah, naturellement, il y a un intérêt croissant envers le vivant, la nature, etc. Donc vu les conditions et la manière dont on en a parlé cet été, ça rend les gens encore plus curieux de découvrir tout ça. Donc oui, ça a bien fonctionné, ça a permis des échanges très enrichissants aussi. Et comme on disait tout à l'heure, beaucoup de sensibilisation. Et c'est quelque chose de vraiment important parce que l'idée dans le Vercors, c'est de s'articuler sous une forme, d'avoir une cohérence de territoire. Voilà, moi, en tant qu'indépendant, essayer d'avoir un discours commun avec l'équipe du parc, avec les gardes des espaces naturels sensibles, etc., pour qu'un maximum de personnes, de pratiquants de ces espaces, aient été sensibilisés au moins une fois quoi, par l'un de ces acteurs territoires.
Oui, donc l'intérêt est croissant. Ça, c'est quelque chose que tu as vraiment pu sentir cet été.
Exactement, ouais. Et c'est ce qui est encore plus motivant, justement, pour continuer d'aller sur le terrain, pour observer ce qui se passe et pour transmettre quelque chose qui est encore plus pertinent quoi, et d'actualité. Ouais.
Et puis ça fait du bien une petite note positive sur ce qui nous arrive finalement, de se dire l'aspect positif, le verre à moitié plein, c'est que finalement les gens s'intéressent de plus en plus à leur environnement et peut-être vont en prendre de plus en plus soin aussi.
On le souhaite, en tout cas on a tout le potentiel ici, on a de la chance d'avoir encore de beaux espaces naturels qui sont grands, avec une biodiversité incroyable, ce qui n'est pas forcément le cas de partout, hein. On a tendance à l'oublier parce que c'est près de chez nous, et voilà, il faut vraiment être conscient de ça et savoir l'apprécier à sa juste valeur. Hein.
Et donc en cette rentrée 2026, Romain, tu proposes donc toujours des sorties. Est-ce que c'est des sorties que tu proposes toute l'année ?
Alors c'est des sorties que je propose toute l'année, sachant que chaque saison va influencer un peu les thématiques, parce que l'activité animale évolue au fil de ces saisons-là. Donc là, il y a un grand événement qui est aussi fascinant que problématique, on va dire, qui va pas tarder à arriver, c'est le Brame du Cerf. Alors cette année, c'est la première fois que j'ai décidé de ne plus proposer aucune activité autour du Brame du Cerf, du fait des polémiques à répétition qu'on observe chaque année. Donc c'est aussi une manière de montrer voilà, que si certaines choses ne sont pas mises en place, pour l'instant, je ne me sens pas de pouvoir renouveler un petit peu tout ça. Mais oui, donc il y a le Brame du Cerf qui est prévu.
Et simplement, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces polémiques ?
Ces polémiques, oui. Donc le Brame du Cerf, pour comprendre, c'est la période de rut chez l'espèce Cerelaf, donc la période de reproduction, où le mâle va émettre des cris pendant plus d'un mois, constituer un harem de biches pour chercher à se reproduire avec elle. Ça, c'est dans les grandes lignes, parce que c'est beaucoup plus précis et détaillé que ça, en réalité. Donc, de ce fait, on parle d'un animal qui est énorme, qui est magnifique, qu'on voit jamais, et qui, d'un coup, pendant quelques jours, va devenir hyper démonstratif, avec des grandes vocalises, et avec du comportement varié, en plus. Donc, c'est très intéressant à observer. Et de ce fait, c'est devenu victime de son succès, parce que c'est un sujet qui est devenu très populaire.
Oui, c'est du grand spectacle, quelque part,
de la nature. Un grand spectacle qui a été communiqué d'une manière qui n'est pas forcément la plus cohérente, on va dire, quand on veut profiter un petit peu de cet événement. Donc Internet, les réseaux sociaux voilà, ont largement contribué à tout ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une énorme influence de personnes qui sont présentes sur le plateau, une majorité qui est plutôt respectueuse hein, et discrète. Mais voilà, on a tellement de personnes présentes que ça a quand même un impact. Et il suffit d'un groupe isolé qui vont partir après les animaux pour perturber tout le déroulement qui s'est passé durant une soirée de reproduction, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, hein, pour parler un peu de la sensibilité de ce sujet, c'est que le mâle qui est très expressif, lui, peut se reproduire plusieurs fois par jour pendant 2 mois. La biche, c'est tout le contraire. C'est ce qui pousse le mâle à avoir ce métabolisme. C'est que la biche va être féconde seulement 24 à 36 heures par an. Donc la fenêtre étant très fermée, ça va obliger le cerf à constituer un harem important pour qu'il puisse profiter d'une occasion régulière de se reproduire. Donc si on vient perturber ces quelques heures de soirée où il y aurait une occasion de reproduction, bah ça peut compromettre, pas l'avenir de l'espèce, mais voilà, au moins un cycle qui auraient pu se passer différemment dans la soirée. Ouais.
Et donc si tu as arrêté ces sorties, c'est pour donc, diminuer quelque part peut-être, pour exprimer ton désaccord du coup, avec ces comportements, j'imagine. Mais est-ce que c'est pas un moyen aussi pour toi de faire de la pédagogie justement et de la sensibilisation ?
Complètement. Alors que ce n'est pas parce que je n'encadre plus pendant le BRAM que je ne serai pas actif. Au contraire, j'y serai tous les jours personnellement. Et à côté de ça, je vais faire beaucoup de communication préventive à mon petit niveau, hein, bien sûr. Et puis toujours pareil, en lien étroit avec les gardes et les services de l'État qui seront aussi présents durant ce moment sensible. Donc l'idée, c'est ça en fait, c'est de montrer que, évidemment, on ne peut pas empêcher les gens d'y aller. Et au contraire, s'il y a un intérêt, c'est même positif en fait à exploiter. Donc à nous, après, d'être conscients de quelle manière on peut adapter ça à notre territoire. Parce que oui, il y a de plus en plus de monde, mais pendant ce temps, la montagne, on ne peut pas l'agrandir. Donc comment on fait ? Ben voilà, on réfléchit à des solutions et on essaye d'éduquer au maximum sur le terrain et en amont. Parce que si les gens viennent ici, c'est qu'ils ont eu l'information de ce qui se passe et où. Donc la formation est vraiment déterminante aussi dans l'attitude que le public va avoir sur le terrain, quoi.
Et alors peut-être que tu pourras revenir en parler en détail au micro à Radio Royan-Vercors, mais en attendant, quels seraient les principaux conseils que tu peux donner aux gens qui aimeraient quand même profiter de ce spectacle du Brame du Cerf, mais tout en respectant la nature ?
Pour moi, le premier conseil, c'est pas tellement un conseil, c'est un état d'esprit à adopter. Faut pas oublier que c'est un animal sauvage durant sa période de reproduction, donc il faut accepter l'échec. Et l'échec se traduit pas forcément par la manière dont on l'entend. Hein. On peut simplement se balader à proximité sur un endroit qui est encadré, près d'un chemin, d'un observatoire, profiter de son écoute, parce que c'est une ambiance incroyable hein, avec la transition entre l'été et l'automne en plus. Et rien que ça, déjà, ça peut faire vivre des beaux moments. Mais ça demande préparation, discrétion et respect, surtout. Donc si on veut aller un peu plus loin et pratiquer l'affût, là, c'est encore une autre technique, une autre méthode. Ça demande beaucoup plus de temps en amont et voilà, c'est beaucoup plus sensible parce que là, on va pénétrer des zones qui sont celles des animaux. Donc, dans un premier temps, l'idéal, c'est de rester près des chemins, des observatoires avec une bonne paire de jumelles. Ça n'empêche pas de faire des observations à distance et souvent, elles sont de qualité parce que l'animal n'étant pas dérangé à distance, on peut le voir se comporter de manière naturelle et l'entendre en plus. Donc, c'est super.
Donc pas de sortie Brame du Cerf avec Enquête de Nature cet automne, mais tu disais que tu allais proposer d'autres sorties ?
Je vais proposer d'autres sorties, mais ce ne sera pas avant les vacances de la Toussaint. Quelque chose autour du pistage et des traces de loups, bien sûr, parce qu'on peut en parler toute l'année de ces sujets-là.
D'accord, et bien merci beaucoup Romain donc, pour ton avis sur tous ces sujets d'actualité en lien avec notre territoire. Et donc je rappelle que tu es guide naturaliste donc pour Enquête de Nature, ta micro-entreprise, et que tu proposes des sorties donc, sur le territoire du Royan, du Vercors en général.
Tout à fait, bienvenue et merci à vous.